maintenant une analyse de ces moyens de substitution rapide, rassurez-vous, parce que sinon on serait encore là dans 8 jours. Mais une analyse rapide, synthétique, des moyens de substitution très contestables et très inefficaces qui ont été mis en place. Donc, faute d'avoir des troupes à caractère international à sa disposition, le Conseil de sécurité n'a pas voulu se saborder, il a donc rusé avec les textes. L'un des moyens a été de régulariser ex post une intervention militaire amorcée par un ou plusieurs États. Alors, ça a été le cas pour l'opération en Corée en 1950. Mais cela n'a été possible que par une première entorse à ce qui avait été prévu. Il y a eu, vous le savez, menace sur la Corée, menace communiste, menace venant de la Chine. Et les Américains, naturellement, n'ont qu'une idée, c'est d'intervenir militairement. L'URSS, devant cette situation, a pratiqué la politique de la chaise vide, un peu gênée. C'était quand même une opération communiste, mais ce n'était pas l'URSS, c'était la Chine. Enfin, le contexte était très complexe. C'était quand même quelques mois après la prise du pouvoir par Mao. L'URSS ne vient pas aux réunions du Conseil de sécurité. Persuadé que son absence allait paralyser le Conseil et que du coup, il ne se passerait rien. Mais il a été admis alors, à l'initiative des Américains, et, comme nous disons dans notre jargon de juriste, contra legem, parce que c'est complètement contraire à la lettre du texte, il a été admis que l'abstention ne valait pas veto. Le texte dit qu'une résolution pour être adoptée doit avoir emporté 9 voix sur les 15, parmi lesquelles les 5 membres permanents. Bon. Alors, on en a conclu qu'une résolution serait considérée comme adoptée en dépit de l'absence de l'un des membres permanents. Cette violation de la lettre du texte est aujourd'hui acceptée comme une modification coutumière, il y a des bouquins entiers, des thèses entières là-dessus, parce qu'il est vrai que la procédure telle que prévue, dès lors que les grandes puissances ne s'entendaient plus, cette procédure risquait de réduire le Conseil de sécurité au silence sur toutes les questions importantes. Et donc, c'est dans ce contexte qu'en 1950, le Conseil de sécurité, en l'absence de l'URSS, elle est revenue après, mais c'était fait, MacArthur était parti en Corée, le Conseil de sécurité a invité les États membres à placer leur contingent militaire, je cite la résolution, à la disposition d'un commandement unifié sous l'autorité des États-Unis. Et la guerre de Corée s'est déroulée comme ça. Alors, le Conseil, après cette première expérience, le Conseil a recommencé, il a fait ça de nouveau encore, de manière encore plus elliptique, dans le cas de la première intervention contre l'Irak en 1990-91. Alors, les moins jeunes d'entre vous se souviennent de cette affaire. Et moi, j'ai beaucoup regretté à l'époque, c'était un tournant qui aurait pu être remarquable, parce qu'au fond, le mur de Berlin était tombé quelques mois avant. Nous n'avions plus l'argument de la guerre froide pour empêcher qu'on mette des forces en commun à la disposition du Conseil de sécurité. Et j'ai beaucoup dit à l'époque que vraiment on avait raté une très grande occasion. Mais en tout cas, on l'a raté. Donc, n'ayant toujours pas de forces en commun, le Conseil de sécurité a reconnu la rupture de la paix que constituait l'invasion du Koweït par l'Irak. C'est la résolution du 2 août 1990. Et vous vous souvenez, pour ceux qui s'en souviennent, qu'il y a eu une menace, un embargo, un certain nombre de sanctions économiques très lourdes qui ont commencé à peser sur l'Irak, mais avec un calendrier très serré. De telle sorte qu'on n'a pas attendu les effets escomptés de l'embargo, c'est long les effets d'un embargo. Et dès le mois de janvier 1991, on met la pression sur Saddam Hussein et on lui dit « vous évacuez le Koweït ou le Conseil de sécurité va intervenir ». Alors, ce n'est pas le Conseil de sécurité qui est intervenu, parce qu'il n'avait pas de force opérationnelle. Il a, par une résolution de 1991, autorisé les États à utiliser tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la résolution 660, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'Irak dégage du Koweït. Et cette formule, Mitterrand avait accepté l'idée que nous partions en guerre sous le commandement militaire des États-Unis. C'est ce qui fait que Chevènement, qui était ministre de la Défense à ce moment-là, a démissionné, parce qu'il a eu un peu de mal à avaler quand même le commandement militaire américain. En tout cas, la formule du Conseil de sécurité a servi de caution à une véritable guerre contre l'Irak, dans laquelle ont été engagés des contingents de nombreux pays. Et puis ensuite, il y a eu encore d'autres expériences. Dans le cas de la guerre née de la partition de la Yougoslavie et de la crise du Kosovo, la latitude du Conseil de sécurité a été encore plus ambiguë, parce qu'une fois qu'il est rentré dans ce genre de manipulation, il a été très inventif. Devant l'échec de ce qu'on avait appelé la FORPRONU, qui était une opération de maintien de la paix non coercitive, le Conseil de sécurité a autorisé les États et les organisations régionales, c'est-à-dire éventuellement l'OTAN, à prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances du moment. Après les accords de Dayton, 1995, là, le Conseil autorisera ouvertement une force commandée par l'OTAN, qu'on a désignée sous le sigle IFOR, à prendre des mesures coercitives. Et la même possibilité a été reconnue à la force créée pour la Bosnie-Herzégovine. À nouveau, en 2001, alors après les attentats du 11 septembre, le Conseil de sécurité a couvert, mais de manière très ambiguë, l'opération déclenchée en Afghanistan par les États-Unis en représailles aux attentats du 11 septembre. Et lorsque, le 7 octobre 2001, des unités anglo-américaines lancent des frappes sur l'Afghanistan, le discours, la confusion juridique est totale. Ils y vont en prétendant que c'est une action de légitime défense. C'est-à-dire, c'est pour se défendre, se venger, parce que c'est ça. Mais le discours officiel, c'était, c'est pour se défendre contre ceux qui ont mené les attaques contre les Twin Towers. Donc, on dit on est en légitime défense, et je dois dire qu'à ce moment-là, il y a eu un consensus dans la communauté internationale. Bon, on pourra en discuter, si vous voulez, tout à l'heure, moralement, psychologiquement, idéologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, il n'y avait pas véritablement d'opposition à cela. Mais, dans la charte, quand un État est en légitime défense, car la charte a prévu la légitime défense, mais pour un moment très court, un État est attaqué, il a le droit de riposter. Sauf que, il doit saisir le Conseil de sécurité qui prend le relais dans les semaines qui viennent. Car la légitime défense n'est vraiment qu'une action immédiate pour parer à un danger immédiat. Donc, théoriquement, quand des États sont autorisés à agir en légitime défense, il faut que très peu de temps après, le Conseil de sécurité reprenne la main par une opération internationale. Ça n'a pas été le cas, du tout. Le Conseil de sécurité a reconnu que les conditions étaient réunies pour l'exercice du droit de légitime défense, mais il n'a pas pris le relais. Il n'est intervenu que plus tard, à titre annexe, en donnant son accord à ce qu'on a appelé une force internationale d'assistance à la sécurité, qui est venue en appui à l'autorité intérimaire afghane qu'on avait mis en place, et cela à partir de janvier 2002. Alors, ça, ce sont des cas dans lesquels, véritablement, on a joué avec le texte. Dans bien